Hier, ce qu'on a vu, c'est différents exemples de comment rassurer notre épouse et encourager notre mari. Et c'est une chose qu'on peut retenir, c'est qu'une femme a besoin qu'on connecte avec son vécu, avec son émotion. Et le défi, c'est de ne pas écouter ce qu'elle dit, et comprenez-moi bien, mais pas chaque mot qu'elle dit. C'est pas ça le défi, c'est pas de retenir chaque mot puis de tout mémoriser chaque mot. Le défi, c'est de chercher à comprendre ce qu'elle ressent. Imaginez si une femme chinoise venait vous voir. Moi, j'aurais de la difficulté parce que je parle toutes les langues. Je suis capable de comprendre toutes les langues sauf le chinois. Demandez-moi de parler de n'importe quelle langue au hasard comme ça. L'hongrois, c'est du chinois pour moi. Alors, blague à part, si une femme vous parlait en chinois, mais vous n'êtes pas capable de capter les mots, mais vous êtes capable de lire sur son visage puis sur son expression qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle est en train de vous communiquer. Tu sais, si elle est paniquée, vous allez le voir. Si elle est en colère, vous allez le voir. Si elle dit « Oh, tu dis gaga! » Bien, vous allez comprendre, Carrie, qu'elle a du plaisir, voyez-vous. Alors, c'est ça le défi. Par exemple, c'est quoi l'émotion de cette femme-là? Pardon? Elle est triste. OK. Celle-là. Songeuse. Ça peut être aussi concernée. Mais songeuse, c'est très bon. Inquiète, nerveuse, OK. Exaspérée, oui. Frustrée, non réceptive, fâchée. Joyeuse, ah, ça, on aime ça les hommes quand notre femme est joyeuse. Hein? Voyez-vous, ça n'a pas pris de temps. Vous avez vu, vous avez capté l'émotion. C'est juste ça. Alors, j'ai donné plein d'exemples hier pour apprendre à faire des liens entre la réaction, les expressions, ce qu'elle nous apporte. Mais l'idée, c'est de lire ça. Puis quand on lit ça, on connecte l'essence du message qu'elle veut nous communiquer. Alors, et c'est important qu'en tant qu'homme, on arrête de se disqualifier parce que ça ne vient pas de la voix de notre Père qui nous aime. Ça vient de la voix de l'accusateur des frères qui veut nous disqualifier, qui veut freiner notre marche, qui veut nous empêcher de justement porter du fruit, nous empêcher de marcher dans la joie, de marcher dans la joie que produit l'Évangile. Parce que même, on regarde dans Néhémie chapitre 8, quand la loi a été lue et a été expliquée, les gens étaient dans la tristesse parce qu'ils voyaient, je dis, « Hey, j'y arriverai jamais, c'est trop exigeant. » Puis Néhémie dit, « Hey, c'est le temps de célébrer! » Comment ça, c'est le temps de célébrer? Mais vous avez compris que ça ne dépend pas de vous, c'est l'œuvre de Dieu. Et soyez dans la joie, parce que c'est l'œuvre de Dieu. On a besoin d'un sauveur. Et c'est là qu'il a dit dans Néhémie 8:11, « la joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie vient de ce que ça ne dépend pas de moi, mais je m'attends activement auprès de lui pour que sa puissance puisse agir en nous pour faire au-delà, agir en moi pour faire au-delà de ce que je peux imaginer ou penser. Le chrétien ne devrait jamais craindre de passer à côté, parce que péché, ça veut dire passer à côté. Le chrétien ne devrait pas craindre de passer à côté, mais plutôt de ne pas bénéficier de la grâce de Dieu qui lui est accordée, qui est accessible. Je vous invite à tourner avec moi dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 3, à la fin de l'Ancien Testament. Et on va voir brièvement un passage, Zacharie chapitre 3, versets 1 à 5. Alors, on va se recueillir pour demander au Seigneur qu'il parle à nos cœurs ce matin. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour l'Évangile qui produit une transformation dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit, cette puissance qui agit en nous et qui nous connecte avec toi pour être témoin de ton œuvre, témoin de ton amour, témoin de ce que tu tiens à nous, Seigneur. Merci que tous puissent sortir encouragés par cette communication. Je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et dans la présence de Dieu, eh bien, Satan pouvait l'accuser parce qu'il n'était pas propre. Il n'y avait pas d'affaire là avec toutes ces saletés sur lui. Et Satan avait raison de l'accuser. Mais comment Dieu a délé ça? Comment Dieu est intervenu? Eh bien, il lui a enlever ses vêtements sales, de la même manière que le Christ, Jésus, l'agneau de Dieu, enlève les péchés du monde. Et c'est là qu'il a pu se réjouir de ce que ça ne dépendait pas de ses fautes ou de sa saleté, mais ça dépendait de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire une œuvre, il veut qu'on puisse bénéficier de l'Évangile pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, pour pouvoir marcher dans cette nouvelle vie-là qui vient de lui et pour se réjouir qu'il peut faire, qu'il est capable de faire une œuvre dans nos vies. Écoutez, si le Seigneur a fait cette œuvre dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Parce que savez-vous, c'était quoi le reproche qui blessait le plus Carole, ma première femme? T'es un gars déconnecté de tes émotions, puis t'es pas capable de comprendre ce que je ressens. Écoutez, j'étais là, j'ai été, et quand elle est décédée, ça me disait, Seigneur, je sais pas comment je vais y arriver. On dirait que je suis incapable. Je disais, tu me demandes quelque chose, tu me demandes d'être connecté avec mes émotions. Je suis même pas capable. Je sais même pas comment ça marche. Comment ça se fait. Je sais même pas c'est quoi je ressens en ce moment. Ouais, mais c'est quoi que tu ressens? Je sais pas. Moi, je te sens-tu bien? Plus là, tu sais, c'est comme... Parce que là, avant que tu me parles, je me sentais bien. Là, je peux juste dire, je me sens pas bien, mais je me sens pas bien comment, plus ci, plus ça, je sais pas. J'étais bloqué, tellement que mon verset là, que je priais, là, c'était Psaume 142, 8, « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Je sais que je suis captif, Seigneur, mais je ne sais pas comment sortir de cette prison-là. Il y a juste toi qui peux faire. Il y a juste toi qui peux briser ces liens. Il y a juste toi qui peux me décadenasser, Seigneur. Je peux rendre témoignage de ce qu'il a fait. Parce que quand je raconte ça à Nathalie, elle dit « Ça se peut pas. Ça se peut pas. » Mais tu ne m'as pas connu avant. C'est comme si, quand je lui parle de ça, c'est comme si j'y parlais d'un autre homme. C'est vrai, hein? Elle dit c'est vrai. Que moi, je crois ma femme, là. Alors, fait que, tu sais, essayez pas par vous-même de mettre en pratique tout ce que vous avez entendu, vous avez vu cette semaine. Vous allez être découragé. Excusez. C'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est là, au pied de la croix, qu'on demande au Seigneur, dit, fais-le, Seigneur. Moi, j'attends. Tu veux me bénir? Tu veux me changer? Je suis là pour recevoir, Seigneur. La grâce de Dieu nous donne la provision de vivre selon Dieu. Ça ne repose pas sur moi, sur mes compétences, sur mes forces. Et c'est important qu'en toute chose, nos yeux soient sur la grâce de Dieu pour nous. Et ce qu'on va voir ensemble reflète la sagesse de Dieu qui nous dépasse parce que ses voies ne sont pas nos voies dans Ésaïe 55. Elle est humainement inatteignable. C'est pour ça qu'il dit, c'est comme, essaye de toucher les nuages, là, c'est impossible. Autant que le ciel là, est loin de nous, eh bien, la voie de Dieu, elle est inatteignable. C'est pour ça qu'il nous a placés en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Jacques 1,5, et dans le contexte, il parle de quelqu'un qui est en difficulté, qui vit un dilemme, qui vit un défi, qui lutte contre la tentation ou qui est dans une épreuve. Il va dire, lorsqu'on est dans l'épreuve, puis qu'on fait face à des obstacles, il nous dit dans Jacques 1,5, « Si l'un d'entre vous manque de la sagesse nécessaire, Jacques 1,5, qu'il la demande à Dieu et... quoi? Il la lui donnera, car à tous, il distribue ses dons généreusement et en toute simplicité, sans adresser le moindre reproche. » En d'autres mots, Dieu, quand on dit, hey, je ne sais pas comment y arriver, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas pantoute, mais je viens à toi. Et Dieu ne nous reproche pas en disant, ben, il est à ta, ouais. Tu l'as pas l'affaire, le gros. Fait que... non, c'est pas comme ça que Dieu parle. Il dit, non, moi, j'attends juste que tu viennes à moi. Fais juste déposer à moi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Enlevez-vous cette charge-là. Et qu'est-ce qu'il dit, la promesse? Si moi, je fais ma part de me décharger sur lui de mes soucis, il dit qu'il va prendre soin de moi. Il prendra lui-même soin de nous. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on vienne à lui et qu'on demande. Puis il ne nous reprochera pas de ne pas être capable. C'est pour ça qu'il nous dit dans Hébreux 4, 14 à 16 de venir avec assurance. Il comprend notre crainte. Toujours dans le même passage, on le voit, il comprend notre incapacité. Et savez-vous quoi? La loi voulait faire de nous des chiens et la grâce des chats. C'est-tu pas beau, ça? OK, je vais vous expliquer. Il y a une raison pour ça. À un moment donné, quand j'étais en secondaire 1, M. Claude Maheu, notre prof de biologie, avait raconté une histoire. C'est un scientifique, Claude Maheu. C'est un prof de bio. Et il a répondu à la question... lequel des deux est le plus intelligent, le chien ou le chat? Il nous avait démontré que scientifiquement, un des deux animaux, devrais-je dire, est plus intelligent que l'autre. Comment est-ce qu'ils ont fait pour savoir ça? Eh bien, ils ont mis un genre de gros plexiglas entre le chien et un bol de nourriture appétissant, ou un bol de nourriture appétissante. Ce n'est pas le bol qui est appétissant, c'est la nourriture. Alors, et là, le chien gratte, le chien essaye de par tous ses moyens, ses pattes, ses crocs, pour essayer de détruire ce mur de plexiglas, ce mur transparent. Il jappe, il tourne en rond, il se couche, il arrête là. Le chat fait la même chose. Mais... il longe le mur. Fait le tour et mange la nourriture. Alors, sous la grâce, c'est comme si Dieu veut qu'on soit des chats. Il veut nous équiper. Il veut nous ouvrir les yeux. Il veut nous amener sur des chemins qui vont nous amener plus loin. Mais c'est lui qui va faire l'œuvre. Ce qui va nous amener à tirer notre épingle du jeu, c'est de se nourrir de la sagesse de Dieu qu'on retrouve dans les Proverbes, par exemple. Parce que dans Proverbes 11:30, ça dit que le sage gagne des cœurs. Celui qui agit bien comme un arbre qui donne la vie. Celui qui possède la sagesse gagne les cœurs. C'est pour ça que c'est important dans nos relations, dans toute relation, mais plus particulièrement, plus spécifiquement dans nos relations amoureuses, d'apprendre la sagesse de Dieu parce que c'est à travers la sagesse de Dieu qu'on va gagner le cœur de notre conjoint ou de notre conjointe. C'est par sa sagesse que Dieu va nous amener à trouver les énigmes qui amènent un blocage, qui amènent une tension et qui nous empêchent de goûter à la paix de Dieu. Philippiens 4:7, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. n'est pas nos peurs, ce n'est pas nos inquiétudes, ce n'est pas notre anxiété qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est la paix de Dieu. C'est elle qu'on doit rechercher, comme je disais cette semaine, dans 2 Thessaloniciens 3,16, qui est disponible en toutes circonstances et en tout temps. 2 Thessaloniciens 3,16. Ce que le Seigneur veut, c'est que je puisse voir au travers les proverbes de quelle façon il va nous amener à tirer notre épingle du jeu. Ce que le Seigneur s'attend de moi, c'est que je lui demande de m'aider. Et pour le reste, on va le laisser nous guider et on va le laisser nous instruire. Alors, c'est important de ne pas laisser la crainte nous dominer, que ce soit la paix de Dieu véritable qui puisse de plus en plus nous habiter. Elle est disponible, elle est accessible et d'être en communion avec cette paix de Dieu que Dieu donne. Et c'est pour ça que notre responsabilité à nous, c'est de l'écouter et de laisser sa parole percer nos cœurs et délier nos craintes et nos blocages. Rechercher la sagesse, c'est important parce qu'on va voir de plus en plus comment gagner le cœur de notre épouse, de notre époux, et c'est ce qui va nous amener à retomber en amour. Donc, Proverbe 11:30, celui qui agit bien est comme un arbre qui donne la vie, celui qui possède la sagesse, gagne les cœurs. On voit que dans Proverbe 18:15, le cœur intelligent acquiert la connaissance et l'oreille du sage la recherche. L'oreille du sage. Déjà, de rechercher la sagesse, c'est un signe de sagesse. Ça démontre qu'on est sage. Et donc, ne te disqualifie pas parce que tu manques de sagesse, de savoir-faire, parce que la sagesse, Dieu la donne à qui? À celui qui manque d'assurance. Dieu dit, tu manques d'assurance, viens dans ma présence recevoir la sagesse, c'est pour toi que je vais la donner. Oui, mais j'y arriverai pas. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais je sais même pas comment ça marche. Je sais même pas comment je vais y arriver. J'ai aucune capacité. Moi, pour moi, c'est du brouillard. Mais tu es à la bonne place. C'est à nous que Dieu veut donner cette sagesse, ceux qui manquent d'assurance. La sagesse s'est bâtie une maison. Elle a sculpté ses 7 colonnes. Elle a envoyé ses jeunes filles avec ses invitations. Elle appelle des hauteurs de la ville. Quiconque manque d'assurance, qu'il rentre ici. À celui qui est faible, elle dit, « Viens et mange ma nourriture, bois le vin que j'ai mélangé. Ne reste pas dans le manque d'assurance, mais vis. Marche dans la voie de l'intelligence. » Et c'est intéressant, « Viens et mange ma nourriture, bois le vin que j'ai mélangé. » La Sainte Seine, c'est au travers de l'Évangile, l'œuvre de Christ, qu'on va développer de l'assurance, parce qu'on va voir l'œuvre de Dieu s'opérer en nous, puis on va exprimer cette reconnaissance que ça dépend de sa mort, de son sang, parce qu'il m'a donné une nouvelle vie en lui. C'est au travers de cet Évangile que je découvre la sagesse qui me donne de l'assurance. Tout comme l'Évangile, la sagesse nous donne de la puissance. La puissance, c'est la capacité de voir des cœurs transformés au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et c'est ce qu'on voit dans Proverbes 8, 12 à 14. « Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Je parviens à la connaissance et au bon jugement. La crainte d'Adonai ou du Seigneur est la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance, les voix mauvaises et les paroles fourbes. À moi, le conseil et le bon sens. » Je suis la connaissance, à moi la puissance. Je découvre la sagesse de Dieu, je découvre la puissance de Dieu. Cette puissance vient de l'humilité, parce que c'est simplement quand on est humble et qu'on reconnaît nos manquements, qu'on reconnaît notre insuffisance, qu'on peut recevoir la sagesse de Dieu, parce qu'on reconnaît que je n'ai pas assez, je ne suis pas suffisant moi-même. Mais qu'est-ce que ça produit? Ça produit de la diplomatie. L'homme sage est fort, oui. L'homme de connaissance grandit en force, car avec une stratégie intelligente, on fait la guerre et la victoire vient de nombreux conseillers. Et donc, c'est avec une stratégie intelligente qu'on règle des conflits. La sagesse va nous apprendre à être diplomate. Et c'est pour ça que plus la sagesse va nous rendre diplomates, plus elle va générer de l'espérance. Mon fils, mange du miel, car cela est bon. Ce qui coule du rayon de miel est doux au palais. Sache que la sagesse est comparablement douce pour ton âme. Si tu la trouves, tu auras un futur. Ce que tu espères ne sera pas retranché. La sagesse donne de l'espérance. La sagesse finit par nous rendre heureux. La sagesse de Dieu. Celui qui la retient fermement sera heureux. C'est pour notre bien que Dieu veut nous donner sa sagesse, parce qu'elle nous apprend l'art de parler au cœur. L'anxiété dans le cœur d'une personne l'alourdit, mais une bonne parole l'encourage. Je suis capable de donner une bonne parole à ma femme quand je suis capable de discerner, de détecter qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment, quelle est son émotion en ce moment, parce que je suis capable de connecter une parole qui est connectée avec ce qu'elle est en train de vivre, là où elle est. Et c'est pour ça que quand je suis à l'écoute de la sagesse, eh bien, j'apprends à guider. Le juste, Proverbe 12, 26, le juste guide correctement la voie de son ami, mais la voie des méchants les égarera. Je vais le répéter parce qu'il n'est pas à l'écran. Proverbe 12, 26, le juste guide correctement la voie de son ami, mais la voie des méchants les égarera. Donc, on apprend à guider, on apprend à justement voir ce qui est en train de se passer, comprendre ce qui est en train de se passer, de se vivre. Et c'est là qu'on peut être un soutien, un vis-à-vis qui est connecté avec la réalité. Et c'est ça qui est, et c'est la sagesse qui nous amène à comprendre, comprendre notre épouse, comprendre ce qui se vit, discerner ce qui se passe. Proverbe 18, 2, ça dit, « Un sot ne prend aucun plaisir à essayer de comprendre. » Il veut simplement exprimer son opinion. Moi, je ne veux pas comprendre ce que tu vis. Moi, je veux dire ce que j'ai à dire. Mais ça, c'est un sot, un insensé qui agit comme ça. Mais celui que Dieu a façonné, celui que Dieu a travaillé le cœur, qui l'a amené à devenir humble par sa force, par son intervention, il va chercher à comprendre ce que l'autre vit. Proverbe 1, 6, ces proverbes sont destinés. Alors, et c'est l'introduction du livre des Proverbes, des 31 chapitres. Je suis content, mon frère, que tu as trouvé le 31e chapitre. Ben, aujourd'hui, avez-vous remarqué, on n'a pas mangé ni saucisse ni bacon. Fait que... Alors, ces proverbes sont destinés, Proverbe 1, 6. Pour ceux qui écoutent en différé, je suis désolé, c'est comme... C'est interne, il fallait être ici pour comprendre ce qui se passe, mais c'est pas grave, on continue. Proverbe 1, 6. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paroles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. Voyez-vous que Dieu veut nous amener à comprendre ce qui nous dépasse, ce qui nous bloque, ce qu'on n'est pas capable de connecter. Dieu veut nous instruire par les proverbes pour nous amener là, justement, pour, en d'autres mots, si je le paraphrase, la sagesse de Dieu veut nous amener à dénouer des impasses. La sagesse de Dieu nous amène à décoder le besoin. Les lèvres des justes savent ce qui est désiré, mais la bouche des méchants connaît la fausseté. On découvre, ah, c'est ça que tu recherches, c'est ça que tu désires, c'est ça à quoi tu aspires, c'est ça que tu souhaiterais que le Seigneur fasse en ce moment. Et ça nous amène, pourquoi? Parce que pour être attentif à la sagesse, eh bien, au chapitre 1, dans les premiers versets, autour du verset 5, ça nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. La sagesse, elle nous amène à décoder le besoin. Et une fois qu'on décode le besoin, eh bien, ça nous amène à être sage. De quelle façon? À être sage pour apaiser. Le sage procure la paix, un apaisement. Un sot donne libre cours à tous ses sentiments, mais le sage les apaise, pensant à ce qui suivra. Dieu veut nous donner la sagesse, non pas pour alimenter une dispute, mais justement apaiser. Ça veut dire quoi, apaiser? Apporter la paix. Proverbe 12, 20. Nous dit que, justement, et cette paix-là, Souvent, elle nous échappe. Et c'est pour ça que j'ai mis des passages qui ne sont pas dans les proverbes. J'ai fait comme une petite voie de détour. Tu sais, des fois, quand on est sur la route, puis là, c'est « Ah, construction, on prend une petite voie de détour, puis on va revenir sur l'autoroute des proverbes. » Pourquoi? Parce que ça illustre très bien notre réalité. Notre réalité de couple à certains moments. Jérémie 8,15 dit « Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. » Tu sais, quand on se marie, c'est, tu sais, on dit souvent, on dit dans le mariage, c'est le plus beau jour de notre vie. Il faut faire attention quand on dit ça, ça veut dire que les autres vont être moins beaux. Tu sais, c'est un grand jour, oui, c'est un beau jour. Puis là, quand on se marie, tu sais, les vœux, tu sais. Hey, je vais être avec toi dans les beaux puis dans les mauvais jours, tu sais. Comme s'il n'y en aurait jamais, il n'y en aura jamais des mauvais jours. Puis là, on espère que tout cet élan amoureux, tout ce sentiment de bien-être et de bonheur se poursuive au siècle des siècles sur Terre et qu'on puisse être heureux et avoir beaucoup d'enfants. Et là, on arrive, je disais, on espérait la paix, mais il n'y arrive rien d'heureux. Jérémie 14, 19. « As-tu donc rejeté Juda et ton âme a-t-elle pris Sion en horreur? » Eh bien, le prophète parle à Dieu, évidemment. « Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison. » Et voici la terreur. Voyez-vous, il revient 6 chapitres plus loin avec cette même notion. Encore une fois dans Jérémie, il lâche pas le morceau. 33:6, Jérémie 33:6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Des fois, on a l'impression que la paix viendra jamais. Et qu'est-ce que Dieu attend juste que je viens à toi parce qu'elle n'est pas là, la paix, je l'attends puis elle n'est pas venue. Dieu rassure son prophète. Il va la donner, la paix. Malachie 4:2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes et vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. J'ai demandé à un moment donné à un éleveur, quand j'étais au Saguenay, il y avait un éleveur qui était parmi nous. Il élevait des vaches puis il faisait du foin. Puis je dis, ça veut dire quoi, ça? Tu sais, pour moi, vous sauterez comme les veaux d'une étable. T'sais. Pour moi, avoir un veau sauter, c'est comme, c'est pas élégant. Il dit, ce qui arrive, Éric, là, c'est que quand là, les veaux ont été enfermés dans l'étable, puis là, on rouvre les portes, puis voit la lumière du jour, ça se met à sauter comme des fous. Sont joyeux, on sort dehors, on est libre, on n'est plus enfermé, on n'est plus barricadé. C'est comme pour eux autres, c'est la vie. Puis ce que le Seigneur est en train de dire, c'est quand la guérison va venir, là, vous allez sauter de joie. Espérez à ce que la paix de Dieu opère sa délivrance au travers de la sagesse qu'il veut nous donner. Parce que la sagesse de Dieu allonge, agrandit notre paix. Mon fils, Proverbes 3, 1 et 2. N'oublie pas mes enseignements, garde mes commandements dans ton cœur, car ils ajouteront une longueur de jours et des années de vie et de paix. Laisse la sagesse de Dieu t'enseigner et ta paix va augmenter. Dieu veut utiliser notre langue pour apaiser. Parce qu'une langue apaisante, Proverbe 15,4, dit, est un arbre de vie. Mais lorsqu'elle tord les choses, elle brise l'esprit. Alors Dieu ne veut pas qu'on apprenne à briser l'esprit de notre conjoint, notre conjointe, à lui faire du mal, à se venger, à lui dire, tu m'as blessé, je vais te blesser. Mais au contraire, à être quelqu'un, un artisan de paix. Et c'est pour ça que la sagesse nous amène à calmer la fureur. Les moqueurs peuvent enflammer une ville. Hein, il suffit d'une petite parole bien piquée. Puis ça part une chicane, ça amène une fureur. Mais les sages peuvent calmer la fureur. La sagesse, c'est là qu'elle va nous amener. Et cette sagesse-là vient de Dieu. Ce n'est pas la nôtre, c'est celle de Dieu. C'est elle qu'on est appelé à rechercher. Hé, Seigneur, comment tu vas nous en sortir de celle-là? Moi, c'est arrivé des fois, je ne comprenais pas ce qui se passait, on se chicane, puis je disais, Seigneur, ça me dépasse. Là. Puis là, je priais, je disais, Seigneur. Puis là, à un moment donné, pif, c'est la parole qui adoucit, qui apaise. Et ça a changé tout le courant de la discussion. La sagesse va nous amener à répondre aux besoins de notre partenaire. Ne retiens pas le bien à quelqu'un qui a droit lorsque dans tes mains, tu as le pouvoir de le faire. Des fois, la rancune, dire, ouais, ah ben, tu m'as fait suer l'autre fois, mais moi, te faire suer. Non, ce n'est pas l'attitude que Dieu veut. Tu peux lui faire du bien, mais c'est important de revenir à la croix pour que le pardon soit relâché, pour que à chaque fois qu'on peut faire du bien à notre partenaire, on puisse le faire. Et c'est pour ça que la sagesse de Dieu va nous amener à faire du bien et cette sagesse-là va nous apprendre à parler correctement, d'avoir les paroles nécessaires qu'on a besoin dans Proverbes 15, 23. Et cette attitude et ces paroles vont générer du plaisir. On voit que quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit décrit la sagesse dans Proverbes 8, eh bien, elle est personnifiée. Et la sagesse dit d'elle-même, « J'étais avec lui, architecte, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence en tout temps, jouant partout sur la terre, et je trouve mes délices parmi les hommes. » La sagesse de Dieu trouve son délice parmi les hommes parce que Jésus-Christ, dans 1 Corinthiens 1:30, a été fait pour nous sagesse. Notre sagesse vient de la personne de Jésus-Christ, et Jésus-Christ, dans toute sa sagesse, prend plaisir à nous réjouir par sa sagesse. Et c'est pour ça que la sagesse font de nous des êtres qui sont des porteurs de guérison. Dans Proverbes 13, 17, ça dit un méchant messager tombe dans le mal, mais un émissaire fidèle amène la guérison. Proverbes 12, 18, des discussions vaines peuvent percer comme une épée, mais la langue des sages peut guérir. Hein, des fois, on peut se dire des paroles blessantes. Parce qu'il y a des conflits qui ont été avalés, mais qui n'ont pas été guéris. Mais lorsque le Seigneur fait une œuvre dans nos cœurs, nous libère le pardon, et qu'on se laisse instruire par la sagesse, on peut apporter des paroles de guérison. Et c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écouter, parce que des fois, si on parle trop, on peut causer plus de tort. Proverbe 29, 20, ça dit, « Vois-tu quelqu'un qui soit trop prompt à parler? Il y a plus d'espoir pour un sot que pour lui. » Et là, on va voir des bénéfices de la sagesse, des résultats de la sagesse. Proverbe 4, 8, « Chéris-la et elle t'élèvera, embrasse-la et elle t'amènera la gloire. » Dieu va se glorifier dans nos vies au travers de sa sagesse et on va être porteur de cette gloire-là, de la gloire de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 2:7, c'est dit que Dieu nous a donné sa sagesse pour notre gloire. Parce qu'il veut qu'on soit glorifié de sa gloire, mais on est les porteurs de cette gloire-là. 1 Corinthiens 2:7. L'objectif n'est pas de gagner une dispute, mais gagner le cœur. Dans Proverbes 12, 19, ça dit des paroles vraies tiendront pour toujours, un discours mensonger pour un instant. C'est pour ça que c'est pas une œuvre qui est à court terme, mais c'est du long terme. Et ce qu'on veut, c'est voir nos femmes heureuses. Parce qu'un cœur content rend le visage joyeux, mais le chagrin brise l'esprit. Proverbes 15, 13. On veut voir nos femmes heureuses. Et comment? Par la sagesse. Il y a beaucoup de bonheur et de vie auprès de la sagesse. Proverbe 8, 32 à 36. Proverbe 8, 32 à 36. C'est pourquoi, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes voies. Entendez l'instruction et devenez sages. Ne la refusez pas. Heureux celui qui m'écoute, qui veille tous les jours à ma porte et qui garde mon seuil. Car celui qui me trouve, trouve la vie et obtient la faveur de Dieu. Mais celui qui passe à côté de moi se fait du mal et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. De recevoir la sagesse de Dieu et de ne pas la refuser, ça produit de la vie. C'est là qu'on va découvrir la grâce de Dieu, la provision de Dieu pour nos relations. Celui qui la retient en parlant de la sagesse fermement sera heureux. Dieu veut nous communiquer du bonheur au travers de la sagesse, parce que c'est au travers de sa sagesse qu'on dénoue des impasses. Et on voit un principe qu'on a vu dans Éphésiens 5, mais on le retrouve dans les Proverbes. Proverbes 11, 17, ça dit qu'un homme qui est bon se fait du bien, mais celui qui est cruel se fait du mal. Un homme bon se fait du bien, pourquoi? Parce que quand je suis bon envers mon épouse, ça me revient. Proverbe 11, 25, « Celui qui bénit les autres prospérera. Celui qui comble les autres sera lui-même comblé. » Vous voulez prospérer spirituellement, vous voulez avoir plus d'éclat spirituel, eh bien, cherchez le bien des autres. Cherche le bien de ta femme et ta paix va augmenter. Faire du bien nous revient, Proverbe 11, 27. Celui qui lutte pour le bien obtient la faveur ou obtient la grâce, mais le mal arrive à celui qui le recherche. Lutter pour le bien. Et ça nous amène pour la trouver, cette sagesse-là, pour qu'elle puisse faire l'impact qu'on a vu, qu'elle apporte la paix, qu'elle apporte la guérison, qu'elle apporte le bonheur, qu'elle apporte le bien-être, qu'elle apporte l'harmonie, la sérénité. Eh bien, la parole de Dieu nous dit d'investir dans la sagesse. Proverbe 23, 23, « Achète la vérité et ne la vends pas. » Et aussi la sagesse, la discipline et le discernement. Proverbe 4, 7, « Le commencement de la sagesse est « Acquière la sagesse et avec tout ce que tu obtiens » ou dans d'autres traductions, « Avec tout ce que tu possèdes, obtiens la connaissance. » En d'autres mots, d'investir. Comme vous avez fait, vous avez investi de l'argent cette semaine pour recevoir la sagesse de Dieu dans les relations. Ça peut être dans des livres, ça peut être dans des cours, ça peut être de l'accompagnement. Mais investi pour que justement découvrir cette sagesse de Dieu, eh bien, ça va être profitable. Et une autre façon de devenir sage, c'est en s'entourant de gens sages. Non pas pour faire partie de leur clique, ça c'est de l'orgueil, mais de s'entourer des gens sages pour apprendre d'eux. Proverbe 13, 20, ça dit, « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des sots souffrira. » Alors, la sagesse va nous amener à avoir de la diplomatie. Les sages cachent leur connaissance, mais lorsqu'un sot parle, la ruine est imminente. En d'autres mots, il y a un temps pour se taire, puis un temps pour, même si on sait c'est quoi la réponse, de ne pas la dire. C'est de la sagesse. Parce qu'on l'a vu aussi cette semaine. Une parole dite à propos, c'est ça qui a de l'impact. C'est pas de faire étalage de notre connaissance. C'est de savoir quand parler, parce que c'est là que ça fait de l'impact. Et c'est pour ça que il y a des gens, par exemple, ça peut être même dans le milieu de travail, qui vont polluer l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler au bon moment, au bon endroit et dans les bonnes circonstances. Et un des bienfaits que la sagesse va apporter, c'est qu'elle va contribuer à ta renommée. Proverbe 12, 8, c'est dit, « Une personne obtient la louange en gardant son bon sens, mais celui qui a des pensées tordues est traité avec mépris. » Et c'est pour ça que j'ai cru bon vous partager ces passages-là pour vous donner de l'espérance. C'est ce que Dieu veut opérer au travers de sa sagesse. Il veut nous apprendre à être diplomates. Dieu veut nous développer un plus grand bonheur relationnel, un plus grand bonheur personnel. Et à chaque fois qu'on va rechercher par la sagesse de Dieu à faire du bien à l'autre, ça va nous revenir. C'est un investissement. Et ce qu'on va voir demain, c'est comment, d'une manière sage, on peut réduire notre stress individuellement et en tant que couple. Parce que dans Proverbes 3, verset 8, ça dit que, justement, et dans Proverbes 4, 20 à 22, que la sagesse nous vitalise. Proverbes 3, 8, ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être, en parlant de la sagesse. Proverbes 3, 8. Proverbes 4, 20 à 22, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à ce que je dis. Ne perds pas de vue mes conseils. Garde-les au fond de ton cœur, car il apportera la vie à ceux qui les accueillent et assure la santé du corps. » Pourquoi? Parce que le stress produit énormément de problèmes de santé. Et c'est pour ça que plus on va être attentif à la sagesse de Dieu, mieux on va être équipé pour faire face aux défis et aux conflits qui nous attendent. Et si Dieu est en train de nous façonner, comme on voit dans Éphésiens 2:10, on est son ouvrage. Et dans le grec, c'est vraiment l'image, là, l'auteur, quand il a écrit le texte original, c'est vraiment l'image d'un artiste qui façonne une œuvre d'art. Ça serait mieux traduit par « nous sommes son chef-d'œuvre » que son ouvrage. Nous sommes son chef-d'œuvre. Et il utilise sa sagesse pour nous façonner et pour nous équiper à développer cette diplomatie relationnelle, cette intelligence relationnelle, pour prendre soin l'un de l'autre et devenir une inspiration. Et cette inspiration, ma prière, c'est que ça puisse amener des gens à désirer cette sagesse qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous, mais qui contribue à notre renommée. Parce que les gens autour de nous vont voir qu'on est ses disciples par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et ça commence dans notre relation de couple. Nos enfants le voient, le sentent. Les gens autour de nous, même si on a un sourire, le sentent, la façon qu'on se parle, la façon qu'on communique, la façon qu'on se sert, la façon qu'on réplique. Est-ce qu'il y a de la vengeance? Est-ce qu'il y a de la rancœur? Et moi, ce que j'apprends, ce que j'ai appris une chose, et j'ai eu le privilège de recommencer à zéro, et de dès le départ, commencer sur des bonnes bases. Moi, j'avais un problème, c'est que j'accumulais, puis j'éclatais. J'avalais, puis à un moment donné, je pétais les plombs. Et j'ai appris au fur et à mesure, d'une manière douce et patiente, d'exprimer mon malaise, d'exprimer mon inconfort, parler au jeu. Je suis pas à l'aise dans ce genre de conversation-là. Je suis pas à l'aise de la tournure de la discussion. Je suis pas confortable là-dedans. Et ce que ça fait que moins que d'éléments accumulés, ça fait que lors d'une prochaine, une prochaine tension, la tension est tout simplement un conflit de perception et non pas une guerre pour se venger et se faire mal l'un et l'autre. Ça prend toute une autre tournure. Ça dure beaucoup moins longtemps. Puis ça nous amène à beaucoup moins coucher sur le divan. Parce que la connexion physique est simplement le reflet de la connexion émotionnelle qu'on vit. C'est une continuité. C'est le miroir, c'est l'effet. Tu sais, quand on regarde un thermomètre, c'est simplement le reflet de la température et notre connexion amoureuse, physique, intime est un reflet parmi plusieurs, c'est pas le seul, mais c'en est un, est un reflet de l'harmonie, de l'unité, du désir qu'on a l'un pour l'autre. Et c'est pour ça que ce qui est beau dans ce message que Dieu veut nous donner sa sagesse, puis si on en manque d'aller lui demander, puis si on se sent incompétent, si on manque d'assurance, si on sent qu'on n'y arrivera pas, bien le Seigneur dit, bien c'est justement, c'est à toi que je veux donner cette sagesse-là. Rentre, viens dans ma présence, viens la chercher. Achète-la, en d'autres mots, investis pour la trouver, cherche, frappe à ma porte, prie, lis, consulte, demande conseil pour trouver cette sagesse. Et quand elle va se déployer, eh bien, tu vas vivre une plus grande paix, un plus grand bonheur, et tu vas davantage chercher le bien des autres parce que ça va augmenter ta renommée. C'est pas merveilleux, ça? L'œuvre dépend de Dieu. Dieu est là, il attend juste qu'on vienne frapper à sa porte pour nous ouvrir et nous donner. Parce qu'il nous aime. Il nous a donné, 1 Corinthiens 2,7, il veut nous donner et il a prévu nous donner sa sagesse pour notre gloire. Pour qu'on puisse être les porteurs de la sagesse de Dieu. Et nous, quand la sagesse de Dieu va se déployer au travers de nous, on va dire, c'est peut-être glorieux à tes yeux, mais moi je sais d'où elle vient, parce qu'elle ne vient pas de moi. Ce n'est pas notre œuvre, c'est la sienne, mais elle est si merveilleuse. C'est pour ça qu'on l'appelle une bonne nouvelle. Prions. Je suis conscient, Seigneur, que beaucoup, 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 mais Seigneur, tu as beaucoup à donner. Et merci que tu nous rappelles que, oui, il y a de la pluie qui tombe, qui vient justement arroser le cœur, la terre, mais aussi de la neige. Cette neige va fondre un moment donné, va devenir liquide et va nourrir le sol plus tard, dans 3, 4, 6 mois. Et merci, Seigneur, que ces paroles ne s'envolent pas, mais pénètrent notre cœur. Merci parce que tu veux notre bien. Tu veux notre bonheur. Mais que ce bonheur soit pas comme le monde la recherche, mais ce bonheur vienne de ce que ta paix, notre paix, origine de la sagesse que tu nous auras donnée. Lorsqu'on aura crié à toi. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen.